Avec Christelle Robillard pour le journal. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Et à la une, comme un gros coup de pompe sur notre pouvoir d'achat, la hausse des prix des carburants continue et les gilets jaunes refont surface sur les ronds-points. Les autres titres, Christelle.
L'Algérie aurait souhaité plus. Emmanuel Macron a dénoncé hier des crimes inexcusables pour la République en évoquant la manifestation des Algériens du 17 octobre 61 réprimée dans le sang. L'Union fait la force, mais est-ce possible à la droite de la droite? Robert Ménard appelle Marine Le Pen et Éric Zemmour à se ranger derrière celui des deux qui sera le mieux placé en début d'année prochaine. 1000 morts par jour du Covid en Russie. Les Russes sont très peu vaccinés et ils n'appliquent pas les gestes barrières. Le journal des sports en petite foulée ce matin avec Thomas Coignac. Le marathon de Paris commence dans moins d'une heure.
Et à partir de 8h20, notre invité, au lendemain de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961, l'historien Benjamin Stora, il avait remis un rapport à l'Élysée en janvier dernier, autour de la colonisation et de la guerre d'Algérie.
France Inter.
1,43€ le litre de gasoil, ça vous paraît vertigineux et pourtant c'est le prix le moins cher dans toute la France. La petite station-service de Blanzac-les-Matas, située en pleine campagne en Charente-Maritime, s'offre une notoriété inédite et cette offre à prix coûtant attire les automobilistes de toute la région depuis presque un mois, Lise Dussault.
Dans cette toute petite station-service, Lucette vient faire le plein, elle lève la tête vers les chiffres qui défilent vite, trop vite pour elle.
Oh là là, carburant, hein.
C'est dur, très dur.
Alors avant de venir, elle s'est bien renseignée.
Là, j'ai vu AU à 1,55, à Inter à 1,52.
Ici, elle économise environ 10 centimes par litre. Avec ce plein, elle espère tenir un mois entier, ce qui est impossible pour cette jeune maman.
Vous utilisez souvent votre voiture ?
Oui, tous les jours pour emmener ma fille à l'école.
L'info a rapidement circulé. Le casino de Blanzac-les-Matas vend son carburant à prix coûtant. Du jeudi au dimanche, depuis un mois, les automobilistes qui passent dans le coin s'y arrêtent.
On savait qu'il serait moins cher.
Parce qu'il fallait que je fasse le plein. Donc, comme on est de Châtelaillon, j'ai regardé. C'était là le moins cher. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable.
Toujours au prix intéressant.
Nathalie est la pompiste de la station. Chaque fin de semaine, elle court d'une voiture à l'autre car il y a du monde.
Beaucoup les habitués, mais des personnes que je n'ai pas l'habitude de voir aussi,
qui viennent exprès pour le prix.
Et même si les prix sont affichés clairement sur le bord de la route, certains ont du mal à y croire. Dans le magasin, le téléphone de Sylvie sonne souvent.
Pour savoir si on ne s'est pas trompé, si c'est bien ce prix-là, donc oui, c'est effectivement ce prix-là.
Pour savoir si l'opération sera renouvelée la semaine prochaine, il faudra attendre jeudi matin.
70€ s'il vous plaît, madame.
Et en moyenne, le prix du litre de gasoil est de 1,54€ et celui du sans-plomb de 1,60€, des niveaux identiques à ceux qui avaient suscité la crise des gilets jaunes. Et hier, pour la première fois depuis la pandémie, ces derniers sont réapparus aux Herbiers, à Châlons-en-Champagne ou encore Toulouse. À Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, ils se sont réinstallés sur le fameux rond-point des vaches. Pour Isabelle, rien n'a changé.
On n'a jamais bougé. On nous a moins montré, forcément, parce qu'il y a eu toute cette polémique autour des gilets jaunes. Mais on est là depuis 3 ans. On est toujours là. On existe toujours. Et on est toujours là pour la même chose, quoi. C'est toutes les augmentations. Ça fait 3 ans. Là, on nous a un petit peu muselés parce qu'il y avait la Covid. Mais on est tous gilets jaunes, puisque de toute façon, on se bat tous pour la même chose, le pouvoir d'achat. Et toutes ces augmentations qui n'arrêtent pas. Et alors tout le monde crie, tout le monde dit « Oh, qu'est-ce qu'ils font les gilets jaunes ?» Ben voilà. Donc on se remontre. Moi au début on me disait « Va bosser ». Mais si, je bosse, justement, je bosse. Mais en bossant, je n'y arrive pas.
Isabelle, interrogée par Bastien Thomas de France Bleu, Haute-Normandie.
Et le pouvoir d'achat qui est au cœur des promesses des candidats à la présidentielle.
Marine Le Pen promet de rendre au moins 150€ par mois aux Français. Éric Zemmour, le pas encore candidat, très concentré sur l'identité et l'immigration, n'a pas encore évoqué clairement cette question. Ils sont en tout cas tous les deux quasiment au même niveau dans les sondages. Alors pourquoi ne pas faire alliance? Robert Ménard, le maire de Béziers, recevait son ami Éric Zemmour et il a appelé à l'union. Élodie Forêt.
La soirée aura commencé par l'aveu de Robert Ménard.
Je n'avais pas imaginé un instant l'accueil que la France te réserverait et je me suis trompé.
Le maire de Béziers, ami de longue date de son cher Éric, soutien jusque-là de Marine Le Pen, se veut aujourd'hui le juge de paix.
On ne gagnera pas sans Marine Le Pen.
Et appelle à ce que le moins bien placé se range derrière l'autre en février sur le modèle d'un François Bayrou s'alliant à Emmanuel Macron en 2017. Un engagement qu'Éric Zemmour refuse de prendre.
J'ai un peu de mal à me retirer alors que je ne me suis pas encore présenté.
Comme il refuse le cessez-le-feu avec Marine Le Pen, son discours axé sur le combat des idées sonnant comme la réplique à celle qui se vante d'être la candidate des solutions concrètes.
Tout le problème de la classe politique, c'est qu'elle méprise les Français. Je ne dis pas que ce qu'il y a à la fin du mois, ce qu'il y a dans l'assiette des Français est à dédaigner. Mais dire qu'il n'y a que cela et que les Français sont incapables d'évaluer le destin de la France, c'est les mépriser.
Du pouvoir d'achat ou de l'augmentation des carburants, Éric Zemmour ne dira donc rien pour l'instant. La campagne est longue, sourit-il. Une campagne qui verra à son tour Marine Le Pen venir à Béziers. Chez Robert Ménard, nouveau casque bleu de la droite nationale.
Élodie Forêt, en Angleterre, on en sait plus sur le terroriste qui a poignardé le député conservateur David Ames. Ce jeune homme de 25 ans, britannique d'origine somalienne, avait été invité à se déradicaliser, mais ne s'y était pas montré franchement assidu. De nouveaux enlèvements à Haïti, une quinzaine de missionnaires américains et leurs familles ont été kidnappés ce matin par un gang armé près de Port-au-Prince. Ils revenaient d'une visite dans un orphelinat. Emmanuel Macron avait promis des mots choisis pour dénoncer ce qui s'est passé en France le 17 octobre 1961. Cette manifestation d'Algériens réprimée dans le sang passée sous silence. Hier, il a évoqué dans un communiqué des crimes inexcusables pour la République. Les descendants des victimes espéraient la reconnaissance d'un crime d'État. Et de l'autre côté de la Méditerranée, Éric Biégala, l'Algérie reste aussi sur sa faim.
Oui Christelle, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété hier que ce massacre du 17 octobre serait dorénavant commémoré en Algérie par une minute de silence à chaque anniversaire. Et en réponse au communiqué élyséen, il s'est lui aussi fendu d'un communiqué réaffirmant, je le cite, son souci de traiter l'histoire et la mémoire sans complaisance ni compromission, mais surtout, je cite toujours, loin des engouements et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante de lobbies incapables de s'affranchir de leur extrémisme chronique, précise-t-il. Pour Karim Kebir, le rédacteur en chef du quotidien Liberté, l'un des principaux en langue française en Algérie, le président français n'est tout simplement pas allé assez loin.
C'est un geste à minima, en vérité. Il ne parle pas encore de la responsabilité de l'État colonial dans cette répression. Nous avons l'impression que même ce qu'a préconisé Benjamin Sforan n'a pas été très pris en compte.
Sur les 22 préconisations du rapport de Benjamin Stora, seules 3 ou 4 ont été mises en œuvre, mais l'accès aux archives françaises de l'époque, par exemple, qui devait être facilité, est au contraire devenu plus difficile. Malgré un arrêt du Conseil d'État en juillet, les historiens se voient toujours refuser l'accès à certains fonds des années 1961 et 62, notamment le fichier des 12 000 arrestations du 17 octobre 61.
Éric Biégala. En France, Christelle, le Covid semble en mode mineur.
Oui, 49,5 millions de personnes sont complètement vaccinées, soit 73% de la population totale. En Russie, c'est quasiment l'exact chiffre inverse. Plus de 70% des Russes ne sont pas immunisés et on est actuellement à plus de 1000 morts par jour et sans geste barrière. À Moscou, Sylvain Tronchet.
Dans les supermarchés, chez le coiffeur, dans les transports en commun, 70 à 80% des moscovites ne portent pas de masque et ne semblent pas se soucier du coronavirus, comme Yulia, qui sort du métro sans masque.
Si je tombe malade, je tombe malade, voilà. Mais généralement, le virus s'attaque aux gens en mauvaise santé. Moi, je prends soin de moi et je ne suis pas inquiète.
À Moscou, actuellement, plus de 3000 classes sont fermées dans les établissements scolaires pour cause de Covid. Mais la municipalité rechigne pourtant à prendre des mesures de restriction. Elles sont impopulaires. La ville tente la méthode douce. Elle a même organisé une tombola avec 10 appartements à gagner pour les candidats au vaccin Sputnik. Mais les Russes restent méfiants. 70% d'entre eux ne sont pas vaccinés, à l'image de Sergueï, 49 ans, sans masque dans le métro, lui aussi.
Je ne suis pas contre la vaccination, mais d'habitude, pour mettre au point un vaccin, il faut 1 an et demi ou 2 ans. Là, pour le Covid, on l'a trouvé tout de suite. Je pense que c'est pour ça que la population n'a pas confiance.
Officiellement, le Covid a fait 220 000 morts depuis le début de l'épidémie en Russie. Mais les statistiques démographiques semblent montrer qu'on serait plutôt aux alentours d'1 million de décès. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
En France, le Covid a considérablement appauvri les étudiants. Il y a un an, l'Observatoire de la vie étudiante révélait que plus d'un tiers d'entre eux n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, les files d'attente sont interminables devant les centres de distribution alimentaire. L'association de lutte contre le gaspillage Linky en organise 3 fois par semaine à Paris. Julien Morcelli s'y est rendu dans le 13e arrondissement.
Une heure avant le début de la distribution, une centaine de jeunes patientent déjà. Parmi les premiers, Lania, en master à Paris.
Nous, les gens qui étaient timides au premier temps, maintenant on s'est montré. Il y a des gens qui souffrent, ils ne disent pas, il faut aller les chercher, les tirer par les oreilles, venez.
À l'ouverture, ils sont désormais 500 à attendre.
Il n'y a pas eu de décrue. Hein.
Claudine est bénévole. Au bout d'une longue table où sont posés des légumes et des repas tout faits, elle distribue du pain.
C'est assez impressionnant et voire inquiétant.
La précarité touche désormais tous les profils. Gabriel, 21 ans, range son ordinateur dans son sac. Il étudie dans une prestigieuse école parisienne.
J'étais jamais venu, c'est ma mère qui m'en a parlé, parce que c'est vrai que j'ai une chambre de bonne, c'est tout petit, dans le 16e arrondissement. Mais bon, c'est minuscule, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et à côté, j'ai pas de supermarché accessible. C'est hors de prix et donc bon, forcément, je suis étudiant, j'ai pas de revenus parce que mes études me prennent quand même beaucoup, beaucoup de temps.
Bon petit déj, ça. Bonne soirée. Je pense que l'alimentation, c'est ce qui vient en dernier. Quand on a acheté tout ce qu'il fallait, effectivement, pour faire ses cours, je les jugerai pas parce que je pense que chacun fait comme il peut dans cette situation-là. On fait pas la queue pendant 1h30, 2h, comme ça, pour le plaisir. Ça, c'est clair.
Les colis leur permettent de tenir en moyenne une semaine.
Merci beaucoup.
Et on rappelle que ce 17 octobre est la journée mondiale du refus de la misère.
Il est 6h11, c'est l'heure des sports.
Bonjour Thomas Coignac.
Bonjour Christelle.
On commence par le football avec une belle histoire de la 10e journée de Ligue 1. C'était à Lyon hier soir.
Oui, l'histoire de Lucas Paqueta, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Il avait joué avec l'équipe du Brésil moins de 48 heures plus tôt à Manaus, à 9000 km de là. Et après 10 heures de vol et 6 de décalage horaire, Paqueta est entré à 25 minutes de la fin. Il a permis à Lyon de l'emporter 2-0 face à Monaco. Autre résultat d'hier pour cette 10e journée, la défaite du champion en titre Lille, 1-0 chez le promu Clermont.
Bon, et puis des belles histoires. Il y en aura beaucoup à raconter aussi ce matin dans les rues de Paris.
Mais parce que Paris retrouve son marathon. Ils seront entre 30 et 35 000 à courir les 42 km 195, dont Alexandre Alain, 26 ans, pas un coureur comme un autre, parce que c'est avec 2 poumons greffés que ce jeune homme malade de la mucoviscidose prend le départ ce matin, Jérôme Val.
C'est un clin d'œil qui rend l'histoire encore plus belle. Alexandre Alain va courir les 42 km 195 aux côtés du chirurgien qui l'a opéré en 2017, une double greffe des poumons qui a changé sa vie.
Sans cette greffe en 2017, j'aurais même pas vu l'année 2018, donc encore moins j'aurais pas pu m'élancer sur ce marathon.
Même si la maladie rôde toujours, Alexandre Alain estime avoir une vie normale et mieux encore.
Je suis à 108% de capacité respiratoire, donc je suis au-dessus de la moyenne selon mon poids et ma taille.
Depuis son opération, le jeune homme a traversé l'Atlantique à la voile. Il fourmille de projets suffisants pour défier les statistiques des décès précoces des malades et des greffés.
Le fait d'avoir la mucoviscidose, ça m'a appris à grandir plus vite ou à être mature plus vite. J'ai aussi perdu ma maman quand j'étais très jeune. Ces épreuves-là de la vie, j'ai dû les affronter très tôt.
Sa course, ce n'est pas uniquement la sienne, c'est aussi un message d'espoir pour tous les malades et leurs proches.
C'est aussi un véritable message d'encouragement. Maintenant, quand des parents qui voient la naissance d'un petit atteint de la mucoviscidose, j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur. Et je pense que dans les années à venir, on va pouvoir guérir de cette maladie.
Malgré les médicaments, je dois avancer avec ma maladie, répète-t-il, et désormais avancer en courant.
Et après le marathon, dans 9 mois sur les Champs-Élysées, ce sera le départ du Tour de France féminin, des courses de plus en plus prestigieuses pour les femmes, mais loin d'être égalitaires. Sur Paris-Roubaix, organisé il y a 15 jours pour la première fois, le vainqueur touchait 30 000 euros, c'était 1 500 pour la vainqueur. Mmh. Et bien aujourd'hui, sur une autre course de vélo, le Chrono des Nations, contre la montre disputée en Vendée aux Herbiers, les primes seront identiques, Florian Cazola.
C'est une petite révolution dans le monde du cyclisme. Pour la première fois dans une course professionnelle en France, il n'y aura pas de jaloux. Un peu moins de 6000 euros pour le premier homme. Pareil pour la gagnante de la course féminine. Et pour que cette parité soit atteinte, le directeur de la course, Thierry Adam, a dû batailler. Il a fallu par exemple augmenter le budget global des primes. Pour y parvenir, les organisateurs ont dû convaincre les partenaires de donner plus. Le département de la Vendée a joué le jeu en accordant une rallonge de 10 000 euros pour le comité d'organisation. l'organisation, le pari est donc réussi avec cette parité dans les primes qui tranche avec d'autres courses professionnelles mixtes. Le dernier exemple en date, c'est le Paris-Roubaix où le vainqueur masculin a gagné 20 fois plus d'argent que son homologue féminine.
Florian Cazola de France Bleu Loire-Océan pour France Inter.
Merci Thomas. Et puis un grand bravo à ces femmes qui ont terrassé leur cancer du sein et qui viennent de rallier Paris à Bucarest en vélo pour récolter des fonds pour l'association Cassiopea. Elles ont pédalé pendant un mois. Notre journaliste sportive qui est à votre place d'habitude, Thomas, Laetitia Bernard, a fait une partie du trajet avec elle depuis Vienne en Autriche. Elle sera de retour dans ce studio le week-end prochain avec des mollets en béton et des souvenirs plein la tête.
Le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Avec de la fraîcheur ce matin au nord-ouest, Jean-Michel Golinski.
Un réveil frais est proche de 0 degré sur la Bourgogne-Franche-Comté et Champagne-Ardenne, contre 8 à 12 sur la façade atlantique et les bords de la Méditerranée, 5 à 7 sur les autres régions, avec des brouillards plus fréquents sur l'est et le centre-est. Comme hier, ils vont évoluer beaucoup plus lentement du sud d'Alsace au Val-de-Saône pour faire place à une journée ensoleillée sur une très large moitié est du pays, malgré un voile nuageux de temps en temps plus marqué du centre Val-de-Loire au nord de la Seine. Mais sur la façade atlantique de la Bretagne à l'Aquitaine, le ciel sera plus chargé avec quelques gouttes possibles cet après-midi près de l'océan. Les températures maximales proches de 14-15 degrés des frontières du nord au Jura vont atteindre 22 à 24 sur la Corse, au sud de la Garonne et sur la Provence. Il fera 18 à Lyon et Paris, 19 à Rennes, Bourges et Tours et 21 degrés sur l'Auvergne, le Limousin et de Montpellier à Perpignan.
Jean-Michel Golinski, Météo France.